Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à toutes et à tous, nous sommes le 25 avril et voici plusieurs semaines maintenant que la Pookie est bloquée dans le sas. Et moi je me pose des questions, je me demande est-ce que la Pookie va bien, je me demande comment la Pookie fait-elle pour se nourrir, est-ce qu'elle souffre de déshydratation, est-ce qu'on peut être peut-être condamné pour séquestration ou non-assistance à personne en danger pour avoir trop longtemps laissé la Pookie enfermée dans le sas. Bref, détendez-vous, vous écoutez le Chip, je m'appelle François Oulac et je suis accompagné comme toujours de Mélanie Manga.
Salut.
De Sarah Kwaka, journaliste.
Bonjour.
Et de Kevin Donna.
Je suis là.
Ouais, alors Kevin, il y a un passage du dernier épisode de Game of Thrones qui t'a fait réagir, qui t'a fait doucement rigoler.
Il y a un épisode où je me suis un peu identifié à une scène, la scène entre Missandei et Grey Worm.
Attends, déjà, est-ce que Sarah, tu es à jour sur Game of Thrones? Regardes-tu Game of Thrones?
Spoiler alerte.
Oui.
D'accord, de toute façon c'est pas un gros spoiler.
Non, il y a pas de spoiler, vous inquiétez pas. Non, c'est la scène entre Missandei et Grey Worm, vert gris en VF, les deux derniers personnages noirs du show. Donc l'hiver est arrivé, si vous voulez. Donc il fait froid, c'est déprimant, et il y a un dialogue où on aurait dit moi et ma chérie en mois d'octobre à Paris. Ça donne quand Daenerys aura repris son trône, il n'y aura pas de place pour nous ici. Quand la guerre aura pris fin, tu te vois vieillir dans cet endroit. T'as pas envie de faire autre chose, de voir autre chose? Nat, je veux revoir ces plages de sable. Alors je t'y conduirai. Voilà, voilà. On aurait dit, comme je disais, deux Martiniquais à Paris en octobre. Voilà, c'était le moment Black Love qui vous est présenté par Game of Thrones.
Sarah, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci pour l'invitation.
C'est un plaisir. Tu es la rédactrice en chef du magazine Négus, qui est un magazine fait, on peut le dire, par des Noirs, pour des Noirs. C'est très foubou, for us by us. Et donc on va parler avec toi pendant cet épisode de ce que c'est en 2019 finalement que d'être à la fois d'être un magazine noir mais d'être aussi une journaliste et une rédactrice en chef noire dans un média engagé notamment. Voilà, c'est le principe, c'est le sommaire d'émission, mais avant ça on va faire la distribution générale et collective de Trash ou Iconique.
Alors moi j'ai envie de parler d'une belle histoire éducative qui va réchauffer le cœur des petits et des grands. Cette histoire c'est celle de This is la peste, qui de rappeur papa de 41 ans est devenu afroféministe grâce à plusieurs recadrages bien serrés sur Twitter. Donc c'est une histoire iconique. Tout commence en mars dernier quand This is fait la boîte à questions de Canal+ et insulte les femmes noires.
Tu nous rapperais ton morceau préféré en utilisant le buzzer. Donc je vais faire la Marseillaise version Niafou. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ah ouais?
Ouais, donc malaise. Hein. Le terme niafou, c'est insultant en fait, oui, parce que c'est à la fois raciste et coloriste et sexiste. Ça stigmatise les femmes noires, leur physique, leurs cheveux, leur façon de parler, leur style vestimentaire qui est considéré comme ghetto. Donc on les stéréotype comme étant vulgaires et forcément moches, car pas à la hauteur des canons de beauté diffusés par ailleurs par la société. Donc le blanc, le fait d'être clair de peau, d'avoir les cheveux lisses, etc. Donc les niafous hein, sont accusés de vouloir ressembler à Beyoncé et à Rihanna sans y arriver, donc forcément elles méritent la moquerie. C'est l'utilisatrice de Twitter, Tenanessa, qui a donc pris sur elle d'éduquer le rappeur hein, en expliquant pourquoi ce terme, qui plus est venant d'un homme noir qui est quand même impliqué dans d'autres causes antiracistes par ailleurs, cette utilisation, elle est problématique, elle est craignose, quoi. Et donc la réponse de This Is, je vous la fais pas en entier, mais en gros, il a dit un truc du genre « Je présente mes plus sincères excuses pour l'utilisation du terme niafou, je ne savais pas que c'était stigmatisant, mais ça fera toujours moins de mal qu'un tissage blond, qu'un contouring clair ou qu'une crème éclaircissante ou qu'un défrisage. » Voilà.
Question con, ça vient de quelle langue niafou, quelqu'un sait?
Aucune idée.
Non.
Ok.
Non. Mais du coup, c'est vrai que ces excuses, je mets des guillemets, hein, sont pas du tout passées et elles ont surtout démontré les lacunes du rappeur en matière de représentation et d'oppression auxquelles font face les femmes noires en France. Et depuis cette affaire, This Is, il avait été un peu annulé comme penseur de la condition noire de chez nous, quoi. Il y avait même certaines personnes qui avaient effacé ses chansons de leur stream et puis la vie avait continué en quelque sorte. Mais soudain, il y a quelques jours, comeback de l'année, This Is a reposté un communiqué qui représente pour moi peut-être l'une des plus belles et plus sincères excuses qu'on ait vues venant d'une star, France et US confondues. Pareil, je ne vais pas vous la restituer en entier, mais ça commence par « j'ai pris le temps, j'ai lu ». Ce que je trouve magnifique. Merci à certaines femmes qui m'ont rappelé à l'ordre et qui ont écrit à ce sujet. J'ai saisi la dimension raciste et sexiste de ce terme. Implicitement, ça dit qu'il y a une seule et bonne manière d'être une femme noire et ce n'est pas ce que je pense. La manière dont elles se maquillent et se coiffent les regarde. C'est pas ça qui me fait mal. Ce qui fait mal, c'est la persistance des canons de beauté occidentaux. Ces mécanismes de l'histoire qui ont fait haïr à certains leurs couleurs, leurs cheveux, leur corps, leur culture, etc. Il termine par « Je suis vraiment désolée d'avoir participé à ce système. Merci de m'avoir imposé cette réflexion. Merci de ne rien avoir cédé. » Donc mon iconique, je le décerne aux afrofemmes de Twitter qui font continuellement le taf, qui attrapent les vestes, qui éduquent les masses à coups de trade, tout en subissant en plus le harcèlement à longueur de journée. C'est des meufs qui m'inspirent énormément et je pense que je ne suis pas la seule puisqu'elles inspirent aujourd'hui aussi à présent This is la peste. To freedom.
Alors moi, cette semaine, j'ai encore un iconique. Cette fois-ci, c'est pour les top-liners. Alors, iconique pour les top-liners, cette semaine, Booba, sur son Instagram, il a partagé une vidéo, une vidéo Red Bull accompagnée d'un joli taquet destiné à sa nouvelle tête de turc, les top-liners. Donc il dit « À tous les top-liners qui veulent briller à la place des artistes, redescendez sur terre. Ne pas confondre celui qui fait la farine et le boulanger. Merci. »
c'est la zone.
C'est quoi un top liner? C'est quoi les top liners? En fait, ce sont les grands responsables ou coupables de beaucoup de tubes français de ces dernières années. Voilà. On fait appel à eux en studio pour trouver des mélodies entêtantes, des gimmicks qui font mouche. Donc, tu as fait le fameux pouloulou de réseau de Niska. Bah, derrière, c'est un monsieur qui s'appelle Pyroman. Ce sont aussi les co-responsables de la disparition des chanteuses à refrain des années 2000, Asia. Hello, le reste du monde. Voilà.
Elle est à toi.
J'attendais que quelqu'un chance, mais oui. Merci.
Je suis là.
François s'est dévoué. le top liner en général, il n'est pas crédité. Sa mélodie est vendue aux artistes, mais il ne participe pas nécessairement à la production du son ni à son écriture. Donc c'est un statut un peu ambigu.
Des fois, ouais, quand tu dis que c'est ambigu, ouais, si, des fois il est crédité la plupart du temps et il participe parfois aussi à la.
Mais c'est pas automatique.
C'est pas automatique. Ouais.
Dans cette course au tube, il y a une écurie qui se détache en particulier, c'est ETMG pour Eclipse Time Music Group. Niska, Damso, Kalash, SCAS, Shai, entre autres, ont fait appel à leur service. Et de ce fait, Red Bull s'intéresse à eux, d'où la vidéo. Il y a aussi un article sur le site de Red Bull qui est très intéressant, qu'on mettra en lien. Donc du coup, avec la vidéo Red Bull, il reste plus dans l'ombre et c'est ça qui dérange certains artistes et c'est là qu'intervient Booba. Ce que disent Booba et d'autres rappeurs, c'est que un artiste, il assume le projet de bout en bout avec son charisme, sa prise de risque, etc. Si par exemple le morceau flop, ben, le top liner, il assume pas les conséquences. Mais est-ce que pour autant ça justifie tant de haine? Est-ce que par exemple dans le fameux réseau Pouloulou, est-ce que c'est le couplet de Niska qui apporte une plus-value au morceau? J'en suis pas sûr. Est-ce que c'est plutôt l'instru, le gimmick, la mélodie qui font l'affaire?
Dans le cas de réseau, c'est le gimmick qui fait le. Mmh. T'es d'accord?
Oui, c'est carrément le gimmick.
Ouais.
Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils s'acharnent comme ça, Booba. Ça fait quoi si les mecs, ils ont une vidéo une fois comme ça, où on parle d'eux par rapport au...
C'est parce que justement, maintenant qu'ils veulent plus sortir de la lumière, ça peut être un parcours logique vers la célébrité, devenir des artistes et de la concurrence en plus. On peut supputer le rapport compliqué que Booba a dealer avec n'importe quelle adversité, concurrence, quoi que ce soit, on comprend qu'il a envie d'un peu de tuer le truc dans l'œuf. Bref, les top liners, ça a servi à quelque chose il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais ma maman à la maison, à Paris, et il y a un morceau qui est passé qui s'appelle 9 de Yveron, de Booba. Et là, maman m'a dit « Ah mais c'est bien, lui il chante, il crie pas ». Et donc même si personne n'est crédité pour avoir top-liné, je suppute qu'un truc aussi mélodique, etc., peut-être que quelqu'un lui a susurré ça à l'oreille. Bref, je comprends la réticence de certains artistes, effectivement, à dire, voilà, les top-liners, en fait, ils ont participé à un petit procédé du truc artistique, mais moi, j'ai écrit, j'ai porté la chose, comme je disais tout à l'heure, le charisme, mais aussi... On est en 2019 et on a envie de tout voir, de tout savoir, culture YouTube, comment on a fait ça, etc.
Le behind the scenes,
moi je conclurai comme ça, j'ai envie de voir comment la saucisse est faite. Donc iconique au top liner et j'ai envie de...
Un petit trash à Booba,
j'irai le voir à Will of Green quand même. mais voilà, c'était mon iconique pour les top liners, en particulier à Pyroman.
Alors, pour le Trashico des réseaux, cette semaine, on vous a demandé de jouer au jeu des 7 différences. Alors, l'histoire, en fait, c'est qu'on a une utilisatrice d'Instagram qui s'appelle @LisaMay, avec plusieurs A à May. Je n'ai pas compté le nombre de A, mais il y en a un certain nombre.
56.
Merci, Mélanie. Fact-checking. Et donc, elle a fait une story, en fait, où elle compare des images du clip de Clout, d'Offset et Cardi B. Voilà, paru sur le dernier album, premier album solo d'Offset, Father of Four. Et elle compare donc des images du clip de Cloud avec un morceau iconique de 1990, Mal Done de Zouk Machine.
Et les mois qu'on sort, il n'y mal donne. Pas fait moins, pas fait moins. Oh,
pardon.
Attends, on n'entend même pas l'insert, tu chantes par-dessus, quoi.
Je ne peux pas ne pas chanter par-dessus. Bref, c'est vrai qu'il y a des similitudes troublantes dans les deux clips. On a cette... en fait, c'est un passage en particulier, c'est celui où Cardi B intervient. Cardi B est vêtue d'une sorte de tenue, un peu inspiration latex, mi-combinaison dominatrice, mi-maillot de bain, une pièce, c'est assez bizarre à
décrire. Mais d'un cagoule, donc, parce qu'il y a un truc sur la tête.
Voilà, c'est ça. Et donc, avec une sorte de couvre-chef intégré, qui ressemble un peu à un bonnet de natation, quoi. Mais le couvre-chef a une sorte de pointe, comme ça, tu vois, une sorte de forme un peu allongée, qui est en effet très similaire à ce qu'on peut voir dans le clip de Mal Done, où pareil, les trois chanteuses ont la même tenue. Pendant tout le clip de Mal Done, je sais pas si vous vous souvenez, mais les chanteuses et le figurant masculin sont immergés dans ce que je crois en fait être du sable. Mais moi, quand j'étais petit et que je regardais le clip à la télé, je croyais que c'était de l'or en fait. Je croyais que c'était de la poudre. Je croyais que c'était de la poudre d'or.
Comme Picsou.
Ouais, c'est ça. Et je pensais exactement à Picsou qui nage dans ces pièces. Et c'est donc bien. Là, en remettant le clip cette semaine, je me dis mais en fait, c'est peut-être du sable. C'est peut-être juste un sablier en fait. Et puis il y a une autre scène aussi où les trois membres de Zouk Machine sont un peu en train de mêler le gars, quoi, on va dire, parce qu'ils en ont marre en fait. De lui, et pareil, donc elle le domine un petit peu, et donc t'as une scène dans le clip de Clout où Offset est donc assis sur une chaise, et pareil, t'as Cardi qui est sur lui et qui fait une sorte de twerk, mais elle le tient un petit peu, et vous savez, elle le domine aussi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes et que c'est assez troublant. On vous a donc posé la question, est-ce qu'il faut appeler la police du plagiat à propos de Offset et Cardi B? Alors, vous avez été 21% à dire non, rien à voir. Enfin, les deux clips n'ont absolument rien à voir. Donc, on va classer ça dans un iconique. Vous avez été 64% à dire c'est plagié, trash. Et vous avez été, alors mon cœur saigne, 15% à dire Zouk quoi? À ne pas connaître Zouk Machine. On a une auditrice qui s'appelle Virginie Bapaume qui fait un podcast de beauté qui s'appelle Dare, qui nous a retweeté en disant plagiat. Il y a également une autre utilisatrice de Twitter qui s'appelle Aïsiana et qui a mis un très joli gif trash. Donc voilà, on va dire que le trash est très largement dominant, exactement, comme les Zouk Machine. Et franchement, moi, mon cœur saigne vraiment pour les 15% qui ne connaissent pas Zouk Machine. Donc petit retour en arrière. Ça doit être des gens nés dans les années 2000, j'imagine. Je me sens très vieux. Zouk Machine, c'est un peu les Destiny's Child de la Guadeloupe, en fait. On peut faire le comparatif parce que c'est un groupe...
Il y a une Beyoncé ?
Ben non, ça c'est un peu plus compliqué. Peut-être Jeanne Faustin qui vit, je sais pas.
Ouais, peut-être.
Peut-être. Bon, enfin, sauf qu'elle a chanté en
2000. Des proportions.
Toutes proportions gardées, voilà, ouais. Sachant qu'elle a chanté en 2007 pour Sarkozy lorsqu'il a été élu. Bon, bref. c'est un peu Destiny's Child de la Guadeloupe parce que bon, c'est un groupe qui est vraiment iconique, l'un des groupes les plus successful, on va dire, de l'histoire du Zouk, qui a vendu presque autant, voire plus de singles avec Mal Done que Kassav. Et c'est un groupe dont la composition a changé avec le temps. Donc ça aussi, c'est un truc qu'on peut rapprocher de Destiny Style. Et puis aussi et surtout, ce sont donc je fais un petit retour en arrière. Donc Zouk Machine, c'est Joël Ursul qui ensuite a quitté le groupe. Joël Ursul qui a donc participé, vous savez, à l'Eurovision.
L'Eurovision avec le morceau écrit par Gainsbourg, c'est ça?
C'est ça, White and Black, je crois. Ouais. Dominique Zorobabel qui est une membre historique et notamment donc Jeanne Faustin qui est une des membres les plus connues. Et donc Zouk Machine, c'était aussi un groupe qui faisait des morceaux féministes avant que ce soit à la mode, avant qu'on ait Beyoncé, Formation, tout ça. Mal Done, c'est l'histoire d'une femme, plutôt une femme au foyer qui en a marre de balayer, de faire le ménage et qui en fait est en train de prendre son gars à partie, Kassaye Missé Bobo, ça veut dire en gros qu'est-ce qui se passe là, wesh, pourquoi En fait, elle veut plus de liberté.
Quel est le fuck ?
Et voilà, ironiquement, c'est une chanson qui est très bien pour faire le ménage,
oui,
pour se motiver.
C'est ça que je pensais.
Ouais. C'est pas faux.
Au ménage.
Passer l'aspirateur et tout. Ouais.
C'est pas faux. Mais ouais, en gros, c'est un hymne féministe d'une femme qui demande plus de liberté et qui est prête à soulever son gars si ça n'arrive pas. Le morceau a été numéro 1 des charts français pendant 9 semaines. C'est un classique disponible dans tous les karaokés. Quand j'ai dit que mon cœur saignait au 15%, c'est que franchement, il n'y a même pas besoin d'être antillais pour connaître.
C'est le seul Malden morceau de Zouk qu'on connaît.
Avec Frankie Vincent.
Avec Vincent, ouais, il faut de la passion. Ouais.
Exactement.
Mais ça contribue un peu aussi à, je ne sais pas, hein, je sais pas si c'est volontaire ou accidentel, mais une sorte de world musicisation
du Zouk.
Tout à
fait. Bah, c'était l'âge d'or du Zouk, ouais, et de la world music en plus. Donc, ouais. C'est un motherfucking classique. Fun fact, Valérie Lemercier a hosté la cérémonie des Césars en 2007,
ouais,
et elle a ouvert donc la cérémonie en arrivant sur scène et en reprenant Zouk Machine, en reprenant Maldon. Donc elle chantait et elle dansait et elle chantait.
Ouais.
Est-ce que vous
imaginez même question? Putain.
Est-ce que vous imaginez Valérie Lemercier en train de chanter Maldon?
Mais elle était Agathe Cléry ou elle était Valérie?
Je me demande. Et donc, dans la vidéo, tu vois le regard atterré de Almodovar, donc, qui est dans, ouais, la salle. Grand moment de culture à la française. Jacques Dago, elle a fait Agathe Cléry, mais j'ai envie de demander, c'est quoi son problème en fait? Qu'est-ce qu'elle nous veut, quoi? Merde! Bref. À noter, bon, y a un truc qui m'interpelle, c'est que les Migos, donc, dont Offset est membre, avaient déjà samplé dans un morceau qui s'appelle Narcos, qui est sorti, ouais, sur Culture 2. Ouais. Ils avaient déjà samplé un morceau de Compas haïtien, ouais, qui s'appelle Espoir, d'un groupe qui s'appelle Les Difficiles de Pétionville. Donc j'aimerais bien que les Migos, ou du moins leur entourage créatif, leur producteur, leur clipper, commencent un peu à assumer publiquement leur amour de...
Rendez hommage, quoi.
Voilà, leur amour de la musique caribéenne.
Donc voilà. Plagiat ou pas?
Alors, moi, je pense que c'est... Le clip a été réalisé par un mec qui s'appelle Daniel Russell, un jeune clipper qui a fait des clips pour J-Rock, Gucci Mane, Kelly Clarkson, un Américain de Virginie. Il a rien à voir avec ni de la génération, ni de...
Ça n'empêche pas d'aller sur YouTube et de regarder Maldon.
Ce que je veux dire par là, c'est que justement, a priori, il y a peu de chances que, tu vois, enfin, c'est quand même très... Ça se ressemble trop pour être une coïncidence.
J'ai vu une autre, en fait, influence qui pourrait... qui pourra avoir joué, enfin
la pub Kodak.
Ouais, c'est Jean-Paul Goode. Jean-Paul Goode.
Oui, Jean-Paul Goode.
Jean-Paul Goode. Le truc de Kim Kardashian Break the Internet, c'est un hommage à Jean-Paul Goode, et c'est, ouais, tu retrouves les espèces de bonnets, les coiffures avec les espèces de queue de cheval, oui, très particulières. Et ouais, ça ressemble à ça aussi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'est les années 80.
Et je cherchais, ouais, désespérément d'ailleurs le nom du réalisateur, ouais, ou du directeur artistique du clip de Zouk Machine, mais je l'ai pas trouvé. Ça me frustrait un peu. Bref, ben voilà. Ben pour moi, ce sera un trash, ben pour le plagiat, qui m'a l'air assez même avéré, on va dire, et puis un iconique quand même pour l'influence, quoi. Merde, faut le dire, c'est un classique. Sarah, on va commencer à discuter un peu avec toi.
Ah.
Pourquoi tu fais cette tête?
J'appréhendais.
C'est pas un examen.
T'appréhendes. Tu veux dire que comme tu as l'habitude de poser des questions, c'est,
oui,
ça?
Oui, c'est vrai que ça fait toujours bizarre d'être dans cette place où on pose des questions parce que c'est plus mon boulot.
Oui, bien sûr. Mais, des formations professionnelles, on est pareil. Mais tu vas t'y faire.
Mais je suis contente d'être avec vous.
Oui, bon, bah, c'est le principal. Tu as 27 ans, c'est bien ça?
J'aimerais bien. Donc j'en ai 28.
Fuck.
Bientôt 29.
D'accord. Tu es d'origine congolaise ou tu es de nationalité congolaise?
D'origine congolaise.
D'accord. Tu as fait des études de lettres et de philo, c'est ça? Et ensuite, tu t'es dirigé vers le journalisme.
C'est ça.
Un peu par hasard, c'est ce que tu disais dans une interview?
Totalement par hasard, en fait. J'ai jamais eu, ouais, envie de faire ce boulot, c'est marrant.
C'est-à-dire?
Je me suis jamais dit, je vais être journaliste. J'ai voulu être plein de trucs sauf ça. Je voulais être astronaute.
Ouais.
Après, psy, mais j'étais nulle en maths, donc j'ai laissé. Après, je voulais enseigner, et puis je me suis rendu compte que j'avais pas de patience. Et un jour.
C'est venu comment ça?
C'est venu parce que justement, après la fac et tout ça, j'ai travaillé, j'ai fait d'autres trucs. J'ai eu plein de vies, hein, quand même.
Mmh.
Et un jour, que je me baladais au salon de l'étudiant, je suis tombée sur le stand.
Je
sais pas
flyer.
Si c'est fait tout seul, en fait. Non, le monsieur, carrément, qui représentait l'école de journalisme, donc l'école supérieure de journalisme de Paris.
D'accord.
Qui est dans le 13e.
Ouais.
Et on a discuté, et puis ça s'est fait naturellement.
D'accord. Alors moi, quand j'ai découvert Négus... D'ailleurs, le Négus fête son troisième anniversaire, c'est ça?
Déjà.
Ça, ouais. Donc ça passe vite. J'ai l'impression, mais je suis pas sûr sur la timeline, la chronologie, que c'est à presque au même moment où nous on lançait le chip.
Ouais, c'est pas très loin, ouais. 2016, ouais, c'est pas loin, c'était dans.
Je me souviens, donc c'était le début du chip, quand on était encore produit par Afrostream, mais je me souviens avoir feuilleté le premier numéro de Négus chez Kevy, puisque à l'époque, on enregistrait le chip chez Kevy avec des micros et une table de mixage. Et
du rhum.
J'étais pas là.
Il ne faut pas faire l'apologie de l'alcool dans un podcast, c'est pas bien. Mais oui, voilà, je pense que c'était à peu près dans ce contexte-là.
Ouais.
Et donc voilà, j'ai pu feuilleter ensuite plusieurs numéros depuis. Et la ligne éditoriale est super intéressante parce qu'il y a à la fois des interviews d'artistes, Kalash, Gizmo, Booba. Bon, moi, j'aime beaucoup le rap, forcément, ça m'intéresse. Des sujets histoire et société. Vous avez parlé des athlètes qui ont levé le poing. Vous avez parlé de l'histoire du franc CFA, de la présence militaire française en Afrique. C'est très large, finalement. Et puis, évidemment, des tribunes intellectuelles et autres activistes. Comment est-ce que tu définirais la ligne édito de Négus en quelques mots ?
Ben, je dirais que c'est vraiment notre point de vue. En fait, le point de vue des Noirs de France sur les événements politiques, société, histoire, quoi.
D'accord.
C'est nous, quoi.
D'accord, mais... J'ai l'impression aussi que lorsque vous menez vos interviews, vous allez toujours ramener les personnes que vous interviewez. Par exemple, je pense à Rosenbach dans quelque chose de très.
Oui, c'est l'engagement en fait quand même qui compte.
Oui, voilà.
L'engagement et la façon dont ces personnes-là se perçoivent dans la communauté et ce qu'elles apportent éventuellement à cette communauté, parce que ça fonctionne beaucoup c'est très à la mode aujourd'hui de dire Ubuntu. Donc Ubuntu, c'est un mot en Swahili qui reprend cette philosophie de tous ensemble. Mais c'est un peu ça l'idée, c'est que en termes de réussite individuelle, si ça n'a pas de valeur collective, c'est pas intéressant.
D'accord.
Donc, si tu réussis pour toi, mais que ça fait pas avancer,
pas les autres en même temps.
Voilà, donc ça mérite pas en tout cas de se retrouver dans le Négus.
D'accord. On va reparler un peu de l'engagement des personnalités noires parce que c'est un truc qui nous intéresse. Mais un dernier truc que je voulais te poser en question introductive, j'ai l'impression aussi que Négus s'est lancé dans un contexte d'ébullition des initiatives afro. Donc bon, je mentionnais très modestement le chip. Mais il y a plein d'autres trucs très intéressants comme Bios Media qu'on salue, l'Afro qu'on salue, Nothing But The Wax qu'on salue également. En gros, il y a de plus en plus de plateformes et d'initiatives afro, mais non seulement afro, mais avec un sens, si ce n'est politisé, en tout cas un sens critique.
Assumé.
Et identitaire, assumé, voilà. Et donc, vous êtes lancé dans ce contexte-là. Comment est-ce que toi, tu perçois ça ? Est-ce que tu partages ce sentiment ? Et si oui, comment est-ce que tu expliques ça ?
Cette
espèce d'alignement des planètes, un peu, tu vois ?
Bah, je pense, oui, que c'était le créneau, mais il était temps. On a vu ça, il y avait Afrostream, comme tu le dis, à l'époque. Donc, je pense que c'était le moment, parce qu'on est un peu, nous, cette génération qui se dit qu'il est temps de faire des choses. On sait déjà que c'est difficile, on sait déjà qu'il y a ci, qu'il y a ça, mais qu'il faut quand même mettre des choses en place et faire qu'au moins ceux qui arrivent derrière, ils ne repartent pas de zéro comme nous. Donc là, c'est un peu le moment où tout le monde s'est lancé. Tout le monde a osé enfin faire quelque chose.
Ouais, il y a une sorte de synchronicité, quoi.
Ouais.
Mel, tu voulais parler de...
Ouais, moi, j'avais une question, en fait, sur l'engagement dont tu parlais. Parce que, bon, on sait que Négus est très engagé. Vous avez, entre autres, interviewé Harry Roselmack. Je contextualise pour ceux qui ne savent pas. C'est le premier journaliste noir à avoir présenté le 20h en France, donc sur TF1. Mais ce que j'ai bien aimé dans l'interview, c'est que vous lui avez posé directement la question, à savoir... Pourquoi il a arrêté cette présentation qu'il a fait entre 2006 et 2011 ? Et lui, il a répondu « L'idée d'être une icône ne m'a jamais intéressée. Être un symbole a son importance, mais je ne l'ai pas cherché, pas voulu. » Et c'est vrai qu'en France, les personnalités publiques noires sont tellement rares dans certains lieux de pouvoir qu'elles sont vite propulsées comme symboles.
Elles ont pas le choix.
De réussite. Il y en a un. Donc, ça permet aussi au système de dire bah, « Vous voyez, quand vous voulez, il suffit de faire ça. Et puis vous aussi, vous y avez le droit. On est dans une république égalitaire. » Et ce qui est aussi paradoxal, c'est que ces personnes-là, elles ont à la fois pas le droit à l'erreur, mais on attend aussi d'elles une certaine forme d'engagement politique, de prise de position sur des sujets comme les violences policières, le racisme institutionnel. Donc moi, ma question, c'est à ton avis, les personnalités noires ont-elles un devoir d'engagement politique, de wokeness ? Et comment on peut naviguer cette question en France ?
Je pense que oui, elles l'ont parce qu'elles le sont avant d'être des personnalités. Ce sont des personnes qui sont noires. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on peut dénoncer, elles le vivent aussi. Donc après, c'est plus de la manière de laquelle ça se passe. Parce que quand on dit engagement, souvent les gens ils se disent « il faut aller porter un t-shirt à l'écran ou lever le poing ». Il ne s'agit pas de ça du tout. Mais c'est vraiment dans la vision. C'est vrai, juste en étant toi, par exemple, en étant un modèle, comme dit Harry Roselmack, même s'il ne l'a pas voulu, il dit qu'il le porte et qu'il l'assume. Donc, pouvoir inspirer des gens, pouvoir ouvrir des portes pour des gens, pouvoir rectifier aussi, parce que souvent, quand il y a les discours dont tu parlais, on n'est pas là. Donc ils discutent entre eux, c'est public, mais ils discutent entre eux. Il y a personne pour leur dire vous faites n'importe quoi. Ouais. Donc juste à intervenir sur ça. Je pense que oui, tout le monde a ce devoir là quand même.
Ouais. Et puis lui, sur le côté symbole, il disait qu'il y avait plein de gens qui étaient fâchés après lui, oui. qu'il est arrêté, quoi. qui sont venus le voir en disant « mais pour la communauté !»
La rançon.
C'est ce qui est quand même assez ouf. Mais après lui, Harry Roselmack, il participe à plusieurs associations, notamment le Club Averroès aussi, la représentation.
C'est ça. C'est quelqu'un quand même qui est lisse en termes d'image. Ouais. Donc il est beau, il est propre sur lui, il présente bien, donc c'est quand même quelqu'un d'assez lisse. Mais ce qui a fait que c'était intéressant, c'est que c'est pas quelqu'un de particulièrement complexé. C'est pas l'image qu'on a d'Harry Roselmack, qui finalement personne n'a rien à lui reprocher. Donc c'était bien d'avoir.
C'est pas le nègre de maison, le gars.
Voilà, c'est pas le nègre maison, mais c'est pas non plus l'activiste. C'est pas Kémi Séba, c'est pas des personnalités comme ça qu'on a pu avoir dans le Négus. Et c'est pour montrer justement que. Voilà, il n'y a pas un noir. Il y a plusieurs noirs et chacun officie dans son domaine, chacun vit son engagement d'une certaine façon, mais ça n'empêche pas. Ceux qui sont bannis, si je puis dire, c'est ceux qui refusent vraiment cette négritude-là et puis qui sont contents d'être le noir, la mascotte.
Ouais. Et le côté personnalité préférée des Français. Ouais, tu voulais dire
Non, non, j'arrivais sur ça. Je voulais juste rebondir un peu sur ce début de thé là qui se versait. Est-ce que tu penses qu'il y a une particularité française chez ce truc, tu vois, d'exemplarité, voire même d'être docile.
Oui. Et d'ailleurs, c'est bien que tu poses la question puisque comme tu l'as dit, c'est l'anniversaire des Négus. Donc, ouais. On va partir sur ça. Je pense pour le prochain numéro, mais je vous en dirai plus en temps voulu. Mais c'est aussi faire le bilan sur ça et constater que en France, c'est tellement difficile pour un noir de s'élever socialement que c'est battle royale. Vous voyez les battle royales, mais vraiment au sens historique du terme, genre des petits noirs qui se tapent pour des blancs, tu vois, et celui qui gagne. Donc c'est vraiment comme ça. Et du coup, on a l'impression que ces noirs-là qui se sont élevés là, peu importe comment ils ont fait, il y a quand même une grosse part de travail. Hein. Ne soyons pas mauvaise langue. Grosse part de travail.
Ou de talent.
Etc. Donc, une fois qu'ils arrivent là, plutôt que d'être dans une dynamique où ils pourraient être contents de voir d'autres noirs les rejoindre,
dire, j'ouvre les
plus, non, je défends ma place parce que je sais qu'il y en a un, en fait. Et que si toi tu viens, ce sera toi ou moi, en fait.
C'est marrant, quand j'ai annoncé à ma famille que je voulais faire des études de journalisme, ils m'ont tout de suite dit « Ah, bah, tu veux dire nouveau Harry Roselmack ?»
Ouais, bah voilà.
Bah ouais, et si j'avais envie d'être plus Jalas ou Patrick Poivre d'Arvor, alors tu
bah
vois
non.
Direct, on pense à Harry Roselmack, tu vois. Et je trouve que c'est super révélateur du nombre de places limitées.
Jean-Michel Apathy de la culture noire.
Le cabache de la culture noire.
Mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'aux États-Unis, on en revient toujours à ce qu'on parle aux États-Unis, mais il y a vraiment ce concept de networking, de black
c'est
networking. Une fois que tu arrives dans un endroit, tu dis « Bah attendez, j'ai telle personne qui pourrait aussi... »
C'est ça.
Alors qu'en France, on n'est pas
du tout
dans ce
paradigme-là. Non, en France, c'est pas naturel. C'est pour ça que nous, on essaye. Et puis, il y a des initiatives depuis quelques années quand même qui se créent autour de ça. Le networking noir, le support black business, tout ça.
Ouais.
Mais c'est encore... C'est pas...
C'est en train d'émerger.
C'est quelques
quoi.
Personnes, quoi. Et le reste, pour les convaincre, il faut plus, je pense, être dans un truc où t'as pas le choix. Ça devient un réflexe, en fait. Parce que le dire comme ça, il y a des gens à qui ça fait encore peur, j'ai l'impression.
Alors, Négus, du coup, pour resituer un peu aussi la jeunesse du projet, donc c'est un magazine qui a été cofondé par Jonathan Zadi, c'est ça, et donc Christian Zella, qui lui-même est le fondateur de la marque
Noir et Fier,
et donc du coup, il est médias de Nofi. D'ailleurs, tu as été rédacteur
chef de Nofi, en fait, comme je ne pouvais pas faire les deux.
Voilà,
t'as dû choisir.
T'as basculé sur le papier.
Donc, ils m'ont confié le Négus, puisqu'on relançait, parce qu'on avait suspendu la publication pendant une année. On était en restructuration, si je puis dire, c'était vraiment ça. Et quand on a décidé de relancer, bah, du coup, ils m'ont confié le bébé.
D'accord. Là où je veux en venir, c'est que du coup, Négus, puisque ça découle finalement de la marque Noir et Fier, il y a tout un background derrière qui est militant, activiste.
Ah oui, donc le positionnement, il est clair, il est assumé.
Il est clair.
C'est vraiment comme pour nos filles, comme pour Noir et
Fier. Ouais. Question journalistique, du coup, est-ce que quand on est journaliste et noir, on se doit d'être finalement engagé, militant?
On se doit pas nécessairement, parce qu'on peut être, on peut très bien être un journaliste, je sais pas moi, mode ou sport, sans forcément parler d'histoire noire ou parler de culture, mais en tout cas, je crois que c'est intéressant de montrer comment nos points de vue à nous, ils peuvent être quand même différents de l'idée qui est véhiculée par des gens qui ne sont pas nous.
D'accord. D'accord, parce qu'on met souvent en avant, tu sais, le fameux devoir de neutralité du journalisme, mais c'est quelque chose de très universaliste finalement.
Bah comme, oui, comme mais la neutralité du journalisme, c'est toujours dans une ligne éditoriale. Donc c'est tout ça. Le monde est neutre, mais dans sa ligne éditoriale, bien qui sûr. Est déjà un parti pris. Donc de toute façon.
Les journalistes écrivent librement ce qu'ils sont socialement programmés.
C'est ça. Donc.
Kevin, il y avait un truc qui t'avait interpellé, je crois, ouais, dans le Nigus.
Moi, dans le dernier numéro, donc celui avec Harry Roselmack en couverture, il y a un article au tout début qui m'a blown away, qui m'a beaucoup interpellé. C'est un article écrit par une journaliste qui s'appelle Anne Razzati, c'est ça ?
Anne Razzati.
Et ça parle de l'initiative Wakanda Village. Donc c'est un projet qui est porté par une femme qui est le docteur Arikana Shiombori-Kwao, qui est une américaine. Comment ?
Tu l'as dit du premier coup. Ouais.
Il s'est entraîné avant.
Devant mon miroir. C'est une américaine en fait d'origine, enfin originaire du Zimbabwe, émigrée jeune aux États-Unis, et donc elle est l'ambassadrice de l'Union africaine aux États-Unis. Son rôle, c'est de renforcer les relations culturelles entre les relations culturelles et les partenariats stratégiques entre le continent et les États-Unis. Et en fait, elle mène ce projet de Wakanda Village, qui est une sorte de truc un peu comment on pourrait dire ça, un peu mégalomaniaque.
Afrofuturiste,
inspiré donc de Wakanda, de Black Panther, cette ville afrofuturiste justement. Et l'idée, c'est un projet qui, dans sa première partie, coûte environ 5 milliards de dollars sur 132 hectares, un CHU, une université, des écoles, des hôtels 5 étoiles, une usine pharmaceutique, un monorail, plein d'infrastructures qui manquent cruellement à cette partie du continent. Mais selon l'article justement, dans Négus, le projet est voué à être une sorte de bulle à la pointe de la technologie dans une des plus belles zones d'Afrique australe, donc classée au patrimoine.
Voilà. Et tout, c'est
ouais, l'Afrique des Grands Lacs, le Sud-Afrique des Grands Lacs et tout, patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle déclare, la femme, le docteur Shamburi Kwao, elle déclare « Nous voulons construire l'Afrique que nous voulons ».
C'est ça.
Est-ce que c'est un Liberia 2.0 qui sont en train de nous faire ? C'est ce qu'on la question qu'on soulève dans l'article. Quoi.
Oui, c'est ça. Bah, déjà, Anne Razzati est actuellement du coup, la rédactrice en chef de Nofi.
D'accord.
On a fait un
crossover.
et du coup, ce qui est drôle déjà, c'est qu'on ne sait pas si c'est le film qui a inspiré le Wakanda Village ou si c'est l'inverse, ou si le film entrait aussi dans peut-être une opération de communication. On n'en sait rien pour l'instant.
Après, Wakanda, en fait, ça existe depuis longtemps. C'est juste que le film est de
explosé. C'est ça. Mais donc, on ne sait pas s'il y a un rapport entre le film, mais en tout cas, on ne sait pas lequel vient avant l'autre. Mm-hmm. Mais oui, on s'est posé la question du Liberia. Pourquoi ? Parce que ça a l'air beau quand même. Enfin, une Afrique comme ça, futuristique, à la pointe de la technologie. C'est ce à quoi je pense les Africains aspirent eux-mêmes pour eux. Là, il y a quand même une forme d'eugénisme. C'est quand même des gens qui ont de l'argent. Il faut avoir des moyens pour non seulement bâtir ce Wakanda Village, mais pour aller y vivre voit le programme. Et quid des populations qui sont là, de quelle manière elles vont profiter ?
Il se trouverait où déjà le Wakanda
entre
Village
à cheval entre le Zimbabwe et la Zambie.
D'accord, ok. Okay.
Donc, il se trouverait dans un spot magnifique. Donc, ce serait joli. Il y aurait toutes les technologies. On a détaillé un peu. Il y a des hôpitaux, des centres de formation, des écoles. Voilà, tout vraiment une nation d'élite, si on veut. Mais pour des gens qui partent des États-Unis, c'est les Afro-Américains fortunés qui vont quitter les États-Unis pour s'installer dans ce Wakanda Village, donc dans cette Afrique fantasmée, comme elle le dit dans son article. Mais pourquoi on a posé la question du Liberia 2.0 ? Parce que c'était exactement la même démarche. Ouais. En général, c'est partir, fuir quelque chose. Pour l'époque, c'était ça. Après l'abolition de l'esclavage, on leur a dit, si vous voulez rentrer en Afrique, tenez, il y a un pays là-bas. On leur avait pas peut-être dit qu'il y avait déjà des gens là-bas. Donc c'est pour ça que l'histoire du Liberia, c'est la guerre, en fait. Et là, ça... Oui,
je voulais juste pour rappel deux, trois trucs. Ce dont tu parles, c'est les années 1820, en fait. C'est les premières colonies américaines en Afrique, la société américaine de colonisation. Et à partir du milieu du 19e siècle, on va vraiment encourager des Noirs américains à s'installer là-bas.
C'est ça.
Et ils vont devenir une espèce de classe dominante.
Oui, ils vont faire exactement reproduire, en fait,
un schéma de domination
aux États-Unis. Et c'est toujours le risque avec ça, parce que quand tu veux te faire un petit trou chez des gens, c'est quand même, il faut que ça profite aux gens en question, en fait.
Bien sûr.
Et là, on parle quand même de pays où tout n'est pas réglé. On peut avoir quand même des lacunes au niveau des soins, au niveau de l'éducation, au niveau même de l'eau potable ou des choses comme ça. Donc, quand on en est encore là, le Wakanda Village, c'est, disons, maladroit.
Bien sûr.
Ça m'inspire quelque chose d'autre, c'est que justement, il y a un mot qu'on a déjà prononcé, c'est le mot panafricanisme. Mm-hmm. Ce projet se revendique du panafricanisme. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un mot qui devient de plus en plus courant, que un peu tout le monde se revendique du panafricanisme. Dont Négus, du coup, quel est votre panafricanisme? Quel est le vôtre, du coup? Définissez, s'il vous plaît.
Ben oui, non, c'est vrai. Et comme tu dis, comme ça se démocratise. Ouais. En général, quand ça se démocratise, ben ça se...
Il y a une perte de sens.
Oui. Quand même, ça se... C'est délesté d'une partie de son sens. Ouais. Parfois, c'est mal compris ou c'est répété. Donc oui, panafricanisme, en tout cas dans l'idée d'avoir cette vision-là, de faire parce qu'on est noir, donc d'essayer de faire ensemble parce qu'on est noir ou qu'on soit sur le globe, que ce soit avec le Brésil, que ce soit avec la Caraïbe, donc d'avoir ce réflexe-là, en fait. Mais il n'empêche que chacun vient toujours d'un endroit précis et que dans cet endroit précis, chacun aussi a son parcours précis et ses urgences. Donc on reprochera pas à un Jamaïcain de vouloir d'abord faire quelque chose pour la Jamaïque avant de le faire pour le Mali ou ailleurs. S'il le fait ailleurs, c'est encore mieux, c'est encore plus beau, mais il faut prendre en compte ces spécificités-là. Faut pas que ce soit
Moi j'ai remarqué, c'est vraiment des preuves empiriques, tu vois, de mon expérience personnelle, notamment aux Antilles. J'ai l'impression que c'est un exercice qui est un exercice intellectuel, on va dire, qui est difficile encore à faire pour beaucoup de Noirs de France par rapport à d'autres
francophones de manière générale. Donc même ceux qui sont francophones et qui sont pas en France.
Tu élargirais à francophone, toi.
Oui.
C'est-à-dire qu'on n'aime pas être renvoyé.
On a des séquelles encore. Je pense que ça, c'est en fait le panafricanisme, c'est un peu comme la démocratie. Ce sont des idéaux, en fait, des idéaux auxquels on aspire, mais il y a tout un nombre de questions à régler, il y a un cheminement à faire avant d'y arriver. Et là où on n'est pas encore, comme disait Mélanie tout à l'heure, là où c'est pas encore naturel de vouloir faire une ouverture pour quelqu'un qui nous ressemble, on n'est pas encore à se partager comme ça le fait d'être noir et le fait de... Enfin, cette fraternité-là, en fait. Mmh. Donc, c'est normal qu'il y ait des résistances.
Bien sûr.
Est-ce que, du coup, en parlant de ce projet de Wakanda qui pourrait éventuellement découler du film Black Panther, est-ce que c'est une mise à distance de tout ce qui est pop culture, impérialisme culturel américain? Ou pour résumer, est-ce que Beyoncé, c'est mal?
Non. Je pense que justement, c'est intéressant, Wakanda Village, parce que c'est des sentiments mitigés. Donc à la fois, on a tous été impactés, et ça, dans le monde entier, par le film Black Panther. À la fois, c'est un projet quand même qui est super sur le papier. C'est même la démarche juste de vouloir aller en Afrique, c'est quelque chose de beau à chaque fois, mais justement de rester vigilant.
Ouais.
Et c'est plutôt pour ça qu'il a été rédigé dans ce sens-là. Donc c'est un beau projet, ça va se faire sur un beau spot. Tant mieux pour des Américains qui peut-être ne seraient pas rentrés en Afrique sans pouvoir y trouver ces conditions-là. Mais il faut faire attention de savoir si on ne va pas se comporter nous-mêmes comme des colons occidentaux.
Ou au moins des gentrifieurs.
Il y a des...
Quand tu arrives avec le pouvoir monétaire, économique, et que tu débarques dans un pays et que, comme tu disais, tu te mets dans une classe supérieure, forcément, il y a des
relents de colonisation. Des choses, même sans le Wakanda, si on prend aujourd'hui, pour l'Afrique francophone, les capitales ivoiriennes, Abidjan et Dakar, par exemple, au Sénégal, c'est un peu le phénomène qu'on constate. Ça veut dire qu'en général, les gens qui vont rentrer ou y aller régulièrement, ils vont aller dans la ville et rester entre expatriés. Donc certes, expatriés de la diaspora, mais ça fait que tu pourrais rester 10 ans dans ce pays sans jamais voir le pays. Parce que tu vas parler en français avec des gens qui ont les mêmes codes que toi, qui ont mis les choses aux mêmes normes que toi, dans un immeuble hyper sécurisé, avec le même confort que tu aurais ici. Mmh. Donc c'est exactement le même comportement qu'on reproche aux Occidentaux quand ils vont en Afrique et qu'ils restent entre expats. Ouais.
Moi, j'ai pas la prétention d'avoir lu tout Négus, mais de ce qu'il me semble comprendre de la ligne édito, j'ai l'impression que vous cultivez une forme de... peut-être une forme de méfiance par rapport à la blackness à l'américaine. C'est-à-dire que nous, par exemple, tu vois, le chip, on nous dit souvent, parfois c'est un reproche, parfois c'est juste une remarque factuelle. Ouais, vous passez votre temps à faire des anglicismes, vous prenez tout le temps des références américaines. Bon, disons qu'on a, on n'est pas les seuls, je pense, notamment sur le Black Twitter, à avoir un très fort tropisme.
Ouais.
Américain. J'ai c'est l'impression normal, que Négus, vous êtes plutôt dans la méfiance par rapport à ça.
En tout cas, à s'en sortir, en tout cas.
Pas la méfiance, c'est plutôt essayer justement de sortir de ça, parce que évidemment que la plupart des modèles et dans le réflexe, ce sera toujours afro-américain, parce qu'on est en galère ici, il faut dire la vérité. On a vite fait le tour des personnes qui sont à la fois inspirantes dans leur parcours professionnel et qui partagent ces valeurs-là, qui sont aussi en accord avec cette vision-là. Il n'y en a pas beaucoup ici. Mais on essaye quand même de recentrer sur nous, parce que les histoires, en tout cas des afro-français, elles sont quand même particulières. Donc c'est cette perception-là, ce rapport aux institutions et tout ça, et c'est quand même un rapport bien à nous, les colonies qui sont censées plus en être, mais on sait plus trop, ça en est quand même un petit peu toujours. Voilà. Donc ça, c'est quand même des histoires bien à nous, donc on essaye de, autant que faire se peut, rester quand même centré sur cette histoire-là d'abord, parce qu'on est ici.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Dans le premier numéro de Négus, si je me trompe pas, vous commencez fort avec un dialogue croisé Booba Kémi Séba. Mmh. Du coup, vous osez donner la parole à des personnalités controversées, pour faire simple, et ça a pas mal inspiré François.
Ça m'a pas inspiré, c'est juste que je me suis juste posé des questions. Pareil, tu sais, comme moi aussi journaliste, forcément, je porte aussi un regard de journaliste sur le truc. J'ai pas envie de parler de choses que je connais pas. Je connais pas très bien le parcours de Kémi Séba, mais de ce que je crois connaître de lui, c'est une personnalité controversée, donc
ouais.
à la fois panafricaniste, donc qui défend un idéal contre lequel je suis absolument pas contre, mais qui a été aussi plusieurs fois condamné pour,
absolument.
Pour des propos
absolument, mais de toute façon, bon, on peut comprendre pourquoi une personne qui tient un discours comme celui que tient Kémi Séba ici, dans cette société, soit forcément controversé. Donc ça, c'était logique. D'accord. À la limite, même être controversé, c'est parfois plus une preuve de crédit que le reste. Mais en tout cas, qu'on aime ou pas, ou qu'on soit d'accord ou pas avec le propos de Kémi Séba, il a de l'audience. Donc c'est ça qui était intéressant, c'est que quand même il a poussé à l'éveil plein de gens, en fait. Il a engendré quand même des mouvements par son propre engagement, et donc c'était intéressant de lui donner la parole. Quelqu'un qui a autant d'audience, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est intéressant de lui donner la parole.
Mais vous l'avez donné la parole dans un entretien croisé avec Booba.
Avec Booba, mais là, c'était le Booba qui s'adressait dans Négus. C'est ça qui est bien avec Négus. C'est qu'il ne faisait pas une interview pour les Un Rock ou je ne sais pas où. Ça veut dire que là, il était à la maison.
Oui, et puis
était à la maison. L'angle, déjà, c'était l'entrepreneur. Ouais. Donc, au-delà du fait qu'on soit fan ou pas de la musique de Booba, qu'il soit vulgaire, pas vulgaire, c'était pas ça le sujet.
Ouais,
c'était Booba, l'entrepreneur, qui est quand même, sur deux décennies, a réussi à se maintenir et à évoluer dans sa carrière et à monter des entreprises qui, en tout cas, à vivre de ça, mais en récupérant, en restant pas seulement le mec qu'on met sur scène, chante et putain, on te donne tes trucs. En s'emparant quand même d'une partie, il le dit, récupérer la culture noire.
Bien sûr.
Donc, on a mis ces gens-là qui sont militants.
Ouais.
Face à face. Voilà.
D'accord.
Des degrés différents.
Alors, deux choses déjà. Non, mais après, l'entretien croisé, j'aime bien ce principe et j'aime beaucoup Booba. Donc, j'aime bien le principe, mais moi, perso, j'aurais plutôt fait une interview face-face, genre un journaliste ou une journaliste face à Kémi Séba, pour pouvoir justement mettre ses propos à lui en perspective et avoir une forme de prise de recul sur ses idées. Parce que je pense, malgré tout, tu peux être panaf et tout ce que tu veux, et je suis autant pro-black qu'il se peut, mais je vois pas ce que l'antisémitisme, par exemple, a à foutre là-dedans. C'est mon opinion. Je suis pas là pour débattre des idées de Kémi Séba. Ce que je dis, c'est que j'aurais fait les choses différemment. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je veux te demander, du coup, c'est est-ce qu'il y a des gens à qui tu ne donnerais pas la parole dans l'église, du coup? C'est quoi pour toi les limites?
Ah oui, forcément. Parce que comme je le disais au départ, c'est l'essence de Négus, c'est quand même le militantisme. C'est un magazine qui est engagé.
Ouais.
Et c'est du papier, là. On n'est pas sur le web. Donc ça veut dire qu'on met encore plus de soin dans ce qu'on propose dans les numéros, dans les thématiques, dans comment on monte le numéro et à qui on va donner la parole. Donc, parce que l'essence de Négus est ce qu'elle est, il y a des gens qui peuvent pas s'y retrouver, tout simplement parce que leur comportement, leur positionnement en public, parmi ces gens et surtout ceux qui ont de l'audience, fait que ça colle pas du tout. Et nous, on veut pas dénaturer notre produit et on veut pas trahir notre audience.
Donc des gens qui sont pas engagés, c'est ça que tu veux dire ?
Non, parce que ne pas être engagé, ça veut tout dire et rien dire. Tu peux ne jamais avoir pris position publiquement sur une question, mais être toi-même, partager cette vision et faire à ton niveau, à ta manière, des choses qui vont dans le sens de ce que je disais au départ. Mais non, là, on parle de gens qui ont carrément renié, qui se sont désolidarisés, qui n'ont pas voulu, de peur peut-être de voir certains intérêts vaciller, si tant est qu'il y ait vraiment des intérêts, enfin, des enjeux si grands que ça, qui n'ont pas voulu, qui à chaque fois qu'ils ont eu l'occasion...
Donne-nous des noms. Qui, par exemple, tu te verrais jamais interviewer dans Négus?
Qui ne pourrait pas figurer dans Négus?
Et pourquoi? Je t'oblige pas à le faire, hein, mais j'ai envie de savoir.
Non, non, mais il y a des gens qui pourraient pas figurer dans Négus. Si je prends, je sais pas qui on a à la télé récemment, des personnes comme Absat aussi, par exemple.
D'accord, parce qu'elle n'est pas assez engagée politiquement, c'est ça?
Bah, elle n'est pas engagée déjà, ouais. Et parce que même en termes d'image, de ce qu'elle véhicule, c'est pas pertinent. Dans la posture, c'est comme avec nos filles, l'idée c'est que, oui, c'est là pour dénoncer, mais c'est surtout là pour promouvoir des exemples, des gens qui inspirent, pour aussi se réapproprier notre histoire et l'apprendre. Donc ça veut dire qu'on va... autant que faire se peut, éviter de parler des choses si on peut rien en sortir de constructif. Donc, des gens sur qui on pourrait que tirer, là, je parle pas en particulier d'une Absat aussi ou de quelqu'un d'autre, hein, mais je veux dire des gens qui se retrouveraient là et sur qui on n'aurait rien de positif à dire, rien de constructif, c'est pas la peine.
D'accord.
C'est pas la peine et il s'agit pas de prendre une posture et toute la vie quand tu es médiatisé tu racontes n'importe quoi et là parce que t'es dans Négus tu vas commencer à faire le Black Panther, c'est pas ça. On prend sur le parcours, sur la durée du parcours. Donc c'est plus oui dans ce sens-là. Mais nos filles par exemple, ce qui n'est pas une contradiction, mais nos filles c'est vraiment noir, afro dans tous les sens du terme. Donc selon un moment, selon une actu, selon ce qui se passe, on peut avoir des gens vraiment d'horizons différents et des gens qui sont des militants et des gens qui n'en sont pas et des gens qui veulent rien avoir à faire avec ça mais qui sont noirs de fait. Donc qui peuvent avoir la parole dedans. Mais là le Négus c'est vraiment c'est particulier.
D'accord. Ouais, ça me rappelle l'interview de Kala justement dans Négus.
Absolument.
Où il disait que si. Je sais plus si c'est toi qui as fait l'interview. Oui, je sais plus si c'est toi qui posais la question, si c'est lui qui y répondait, mais qui disait un truc du genre si ta réussite ne prend pas un moment un tour collectif.
C'est ça.
Ça sert à rien.
C'est plus ça en fait. Donc c'est pas du tout compter les points et dire que oui, lui il est pas engagé, lui il est engagé, ou essayer de comme ça faire une distinction entre ceux qui seraient des noirs à 100% et les autres qui n'en seraient pas. C'est pas du tout ça. Et quand je dis ça, j'oppose pas des célébrités à d'autres.
D'accord. Mais t'es pas en train de dire qu'en gros, vous défendez une sorte de négritude exclusive.
Non, 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 c'est pas ce que je suis en train de dire.
Des gens
dire
qui font des choses pour la communauté.
Voilà, des gens qui, en étant là, même on est fiers de les voir là parce que le discours qu'ils tiennent, parce que l'image qu'ils donnent de nous en termes collectifs, et ça, c'est quelque chose dont ils ne peuvent pas se couper. C'est-à-dire que quand tu es noir et que tu vas parler à la télé, même si ça n'engage que toi, t'es quand même, ils vont dire, voilà, les noirs.
C'est politique.
Voilà, que tu le veux, forcément. Forcément, tu donnes une image de nous tous. Donc, ouais. En donnant cette image de nous tous, si on n'est pas fier, si tu n'es pas pertinent, si tu n'es pas carré, ou si ça fait des ouvertures pour que les gens puissent dire, vous voyez, on a raison de dire ça parce que vous êtes des clowns quand vous faites ci, quand vous faites ça, c'est pas intéressant.
Ouais.
Et comme c'est du papier, on n'a pas de place. Ouais. 52 pages. Non mais 52 pages, ça va vite.
Tu n'as pas leur temps.
Voilà, ça va vite. Donc on doit faire des choix. On est souvent frustré déjà de voir des gens qu'on peut pas mettre dans le numéro. Donc voilà, on reste focus.
D'accord. On parle beaucoup de Négus le magazine, mais tu es là avec nous physiquement. Tu es un être humain. À plus forte raison, tu es une femme noire. Mais tu avais des réflexions sur ça,
Sur le fait d'être femme noire et journaliste. Je trouve que c'est intéressant, surtout dans le milieu et dans le contexte actuel en France. On a déjà un peu parlé de ton expérience, de comment tu étais arrivée au journalisme et tout ça, mais du coup je trouve ça intéressant que tu aies bossé au final pour des médias noirs strictement.
Ouais, c'était un choix en fait.
C'est un choix.
C'est-à-dire que moi quand j'arrive en école de journalisme, on est quand même au moment où les industriels ont racheté la presse. Donc moi qui suis... il faut savoir que c'est pas nouveau, même si on sait qu'on a cette image parfois qui fait un petit peu peur ou quoi, c'est pas forcé. C'est-à-dire qu'on n'est pas devenu engagé en faisant nos filles ou en faisant Négu. C'était quelque chose qui était déjà naturel pour nous. Donc moi, quand je vois ça, je me dis, ok, ça veut dire que je peux pas travailler pour tel média, parce qu'elle appartient à tel groupe, parce que là, c'est telle marque, je peux pas travailler.
En amont, t'as commencé à cancel déjà les
groupes de presse. Ah oui, je savais déjà que je pouvais pas, travailler pour un média qui entretenait une situation qui n'était pas bonne pour nous.
Les gens qui ont des ports, tout ça.
Tous ces gens-là, là. C'était pas cohérent. Je trouvais que... C'est vrai qu'après, bon, chacun peut dire... Il y en a qui pourront dire, oui, mais c'est le travail, c'est... Voilà, mais moi, je pense qu'on a quand même toujours le choix. Et j'aurais pas été à l'aise de le faire, ça aurait été contre mes convictions. Donc, ça me laissait pas beaucoup de choix. Et à l'époque, tous ceux qui ont des ports et tout ça n'avaient pas encore une des chaînes qui restait dans mes choix. Donc, du coup, ça avait restreint. Je crois qu'il y avait 3 médias qui me restaient.
Et le LJ Paris, elle a été plus ou moins dirigée par un mec d'extrême droite.
Oui, non, mais après, c'est...
Il n'a pas échappé, tu vois ce que je veux dire.
C'est une découverte.
Je savais même pas ça.
Mais c'est une découverte, en fait.
Après, c'est pas parce que tu peux pas y échapper que tu peux pas faire des choix.
Non, mais c'est une découverte dans le sens où les écoles privées et les écoles de journalisme en particulier, comme les écoles de commerce ou je sais pas quoi, et même les Sciences Po et tout ça doit être pareil, c'est que c'est quand même des milieux très consanguins.
Oui.
Donc c'est des enfants de journalistes souvent qui sont là, donc c'est une manière de penser.
Voilà.
Donc moi je savais déjà ce que j'étais venue faire, donc j'avais pas, j'étais pas mal à l'aise par rapport à ça. Et première année j'entends que la marque Noir et Fier va créer son média. Je me dis ben voilà,
ça y est,
ça c'est pour moi. Ça tombait bien. Et donc je rentre chez Nofi comme stagiaire quand je suis en première année d'école de journalisme.
D'accord. Et du coup, tu as continué à bosser pour
eux. Et du coup, j'ai continué.
Belle histoire, hein.
Ouais, à bosser là-bas, à développer le projet et à rencontrer tous ces gens dont on parle aujourd'hui, de ceux qui, quand tu me dis, oui, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient ne pas être dans le Négus ou qui pourraient être, à rencontrer tous ces gens et à voir en vrai. Parce que souvent, c'est vrai qu'il faut le reconnaître aussi, il y en a pour qui je m'étais complètement trompée.
Ah! Ah ouais.
Ouais, il y en a pour qui je m'étais trompée et il y en a qui sont plus engagés en tout cas qu'on ne le pense ou qu'on le voit.
Faut rester dans le dialogue quoi.
Tu restes toujours ouvert. Donc ça veut dire que même ces gens qu'on mettrait pas en une ou même pas dans le magazine parce qu'on trouverait pas ça pertinent, c'est pas des gens qui sont bannis de la communauté.
C'est juste qu'ils sont pas dans la négus, mais ils restent toujours noirs,
ils restent toujours noirs, ils font toujours partie de la communauté et ça change pas ce réflexe.
Ils sont noirs mais ils sont pas fiers en fait.
Il y en a plein des comme ça, mais c'est plus tu laisses une ouverture en fait.
Tu dis que chacun quand même a
pris le temps qu'il a eu besoin et fait son cheminement pour arriver à être à l'aise avec ça. Ouais. Donc certains ça s'est fait tout petit, certains ça a été naturel, certains ont eu les parents qui les ont mis dedans, moi c'est mon cas, donc c'est pour ça que c'était naturel, et puis d'autres ça vient plus tard, et puis d'autres ça vient pas aussi. Donc voilà, faut l'accepter.
Moi j'aimerais aussi que tu nous apportes un peu ton éclairage sur l'affaire de la Ligue du LOL, parce qu'on sait que c'est une affaire qui a été beaucoup traitée par les médias blancs classiques.
C'était vraiment consternant.
Et en fait, le traitement a relativement évacué aussi le sujet du racisme en fait, parce que ce groupe qui était des journalistes et des communicants, on peut le noter, était composé entièrement de personnes blanches.
De jeunes de banlieue, non?
Il y avait une personne de banlieue.
Il y avait des islamistes, je crois. des djihadistes.
Non, mais voilà. Et du coup, certains des membres s'étaient adonnés à du harcèlement raciste et antisémite. Et en fait, cet aspect-là de l'affaire, dans les médias, on n'en a pas tant parlé que ça. Le fait que c'était que des mecs blancs entre eux. Quoi. Donc moi, j'aimerais bien avoir ton avis en tant que journaliste qui a vu ça de l'extérieur. Qu'est-ce que t'en penses ?
C'était intéressant parce que c'est ce groupuscule de journalistes et de communicants blancs sont des gens qui ont quand même des contacts plus ou moins directs avec même des personnes qu'ils ont attaquées. C'est-à-dire que c'est des gens avec qui tu peux avoir travaillé dans ta rédac, etc. Des gens qui se connaissent plus ou moins. Donc c'était plutôt révélateur, moi je pense. Moi, étrangement, je dirais que c'est bien d'avoir maintenant ces initiatives, enfin, de voir en tout cas ces initiatives-là en vrai, grâce aux réseaux sociaux. Parce que, à ceux qui se diraient encore que oui, c'est quand même exagéré, c'est pas toujours qu'une question de couleur, ou la lutte, elle est sociale, ou je sais pas quoi d'autre encore, ils voient en fait que c'est une pensée qui est intrinsèque. De la même manière que nous, on pouvait pas sortir indemne de cette histoire, eux non plus. Donc cette question de complexe, cette question de vouloir être la mascotte, de pas assumer le fait d'être noir, bah c'est pareil. En face, le complexe de supériorité et tous ces réflexes hérités du colonialisme et de tout ce qu'on a vécu ensemble, ben c'est, ça montre que c'est pas fini, en fait.
Ce qui est très drôle, c'est que je suis à peu près sûr à 120% qu'à un moment ou un autre de ta vie ou de ta carrière, on a qualifié Négus ou Nofi de trucs communautaires.
Ben oui, là, mais c'est un truc communautaire.
Et là, on est, clairement. Non, je veux dire communautariste, tu vois, dans le sens, alors que là, finalement, l'affaire de la Ligue du LOL, c'est communautarisme by the book, tu vois.
Mais oui, mais il y a communautarisme, c'est dérangeant que quand c'est les Noirs, quand on est en France. Mais je pense que c'est plus une question de perception et de peur, puisque comme on n'aborde pas, la France, en tout cas, n'est pas prête à aborder
frontalement ce sujet, l'histoire,
qu'on en parle une fois pour toutes et qu'on voit comment on peut le dépasser. Donc je crois qu'ils ont peur, en fait, parce qu'ils se disent, ils se demandent ce qu'on fout. Quand on est regroupé que entre nous,
parce qu'eux ils sont
regroupés qu'entre eux. En tout cas, l'histoire a montré que c'était jamais pour des bonnes raisons.
On va envahir un pays.
Voilà. Alors lui, on lui coupe la tête. Lui, on va lui mettre ça là et ça va se passer comme ça. Et je pense que de ne pas savoir, de pas avoir de contrôle là-dessus, en sachant qu'il doit y avoir peut-être un sentiment de culpabilité ou en tout cas le fait que tu saches ce que t'as fait et qui pourrait peut-être la crainte, je pense, que les gens sont dans la vengeance ou dans une idée, alors que c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que quand on fait tout ça, quand on fait Négus, quand on fait Nofi, ben on pense pas à ça. On pense vraiment à nous, à comment ça peut nous aider,
l'amour
nous.
Des chiens, c'est
mais
pas
c'est
la
pas
des
contre.
Autres.
Bah oui, ça nous traverse même pas l'esprit. C'est pas contre quelqu'un. Non, mais c'est vraiment ça. Donc bon.
Tu te sens, quand tu vois une affaire comme la Ligue du LOL, tu te sens en quelque sorte
blasé.
Blasé, mais j'allais dire, tu te sens aussi validé, rassuré dans ton choix d'avoir toi construit ta carrière journalistique entièrement en dehors, tu
vois, oui, alors
de ce
moi,
cosme.
J'ai pas. Je me suis posé la question.
Parfois, c'est dur aussi.
Mais c'est dur, mais je me suis posé la question plusieurs fois de me dire, oui, voilà, est-ce que. Mais c'est naturel. En fait, c'est naturel et surtout, c'est. Mais c'est utile.
Ouais, c'est
donc
utile.
Donc, vous savez que.
Bah, disons que t'as une raison d'être, en fait.
Ouais. Voilà, c'est utile et tout ça, c'est que des prétextes pour inciter les gens. À faire aussi leurs choses, etc. Et on sait que c'est bien parce que je sais pas si on prend toutes les activités du groupe, il y a la boutique NF Store par exemple, Nofi Store.
Ouais.
Et Nofi Store, ben c'est un concept store, donc il y a de tout. On met en valeur les artisans, tout ça. Et je me dis que des enfants, des petites filles par exemple, qui vont grandir en ayant des poupées noires, des poupées albinos, des poupées avec du vitiligo, des livres où il y a des héroïnes noires, des films où il y a des noirs, justement, elles ne seront pas dans cette revendication assumée ou non, puisqu'elles sauront qui elles sont, elles auront eu accès à leur histoire. Donc, quand elles vont. Leur rapport aux autres, en fait, il sera sain. Parce qu'on ne pourra pas les attraper sur des trucs de « Ah, mais t'es comme du caca ». Parce qu'elles savent que ce n'est pas ça, en fait, la raison. Mais quand t'es petite et désarmée, je pense que c'est ça qui a fait que beaucoup d'entre nous, on a traîné des blessures pendant longtemps. Parce que même quand quelqu'un vous disait ça, vous n'aviez rien à lui opposer.
Ouais.
C'est pour ça que vous avez lancé Négus Kids aussi, à un moment.
C'est pour ça que, voilà, le Négus Junior est toujours... on travaille toujours dessus. Hein. Donc, à ceux qui penseraient que le projet est mort, on travaille toujours dessus et c'est ça l'idée, en fait. C'est vraiment les enfants, en fait. Disons qu'avec nous on fait du bricolage, si vous voulez, avec nous on fait du bricolage. Donc chacun, selon son niveau d'engagement, rejoint ou pas le mouvement. Mais ceux qu'on sait qu'on peut sauver, entre guillemets, c'est les plus jeunes. Nous, c'est déjà foutu, je crois.
Ouais. quand je te disais, là, je glissais le mot pendant que tu parlais, que c'est pas naturel, moi, je trouve, de s'être construit en tant que journaliste comme toi, tu l'as fait, c'est que c'est très, très, très compliqué. D'ailleurs, tu le disais aussi plus tôt, c'est très, très, très compliqué de se construire un journaliste et d'avoir une carrière de journaliste en dehors des grands médias et des grands groupes et des grandes écoles qui sont des trucs... des institutions blanches, tu vois. Donc je trouve pas ça naturel de se dire, ben non, moi je vais faire tout hors système et du coup je vais me manger des tas d'obstacles, mais je vais faire mon bail de l'extérieur. C'est en ça que je disais que c'est pas naturel. Mais que, du coup, c'est courageux. Du coup, c'est plus courageux.
D'avaler
aussi
des couleuvres dans une rédac ou entre deux papiers, ils vont faire une blague à la noix qui va tous les faire rire.
Ouais,
et puis toi,
cheveux,
tu sais que c'est raciste, toucher tes cheveux, des remarques. Et toi, tu vas faire semblant de rire avec eux. Pourquoi? Parce que tu veux rejeter pigiste au Figaro. Tu vois, au bout d'un moment, tu fais des choix.
Il y a des renois qui ont pigé au Figaro un jour.
Ouais, bien sûr.
S'il y a des Noirs au Front National, tout est possible.
On est partout.
On est partout. Mais dans le sens où, voilà, c'est...
Le flic, c'est quand même contre-intuitif.
On est dans la vraie vie. T'es journaliste, mais tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi, donc t'es une personne. Donc est-ce que quand tu rentres chez toi, tu es à l'aise avec l'activité que tu fais chaque jour? Est-ce que le fait de ne pas avoir réagi quand ton collègue Benoît rigolait sur je sais pas quoi, est-ce que c'est un truc que tu vis bien? Tu vois, est-ce que c'est un truc que tu vis bien? Est-ce que t'as pas honte de toi quand tu sais que t'es la coqueluche et que le jour où t'as pas envie de faire le clown, on te dit, oh, t'es pas drôle aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est un truc que t'as envie de faire tous les jours? Donc après, c'est une question de choix, je pense.
Après, il y a aussi une dimension qu'on va vite évoquer, mais qui est quand même la dimension que t'es une femme, que t'es chef et que t'évolues dans un milieu. Je sais pas exactement comment est la rédaction, quoi. Mais...
Ah ouais, je me suis jamais posé la question, du coup.
Tu vois, c'est pas anodin non plus, quoi.
C'est vrai. Alors, il y a des femmes, si, il y a des femmes, il y a toujours eu...
Visiblement, il y a une autre rédaction chef, du coup.
Voilà, une autre rédaction chef. Et puis, avant ça, les rédactions chefs chez nos filles, ça a toujours été des femmes. Ça, au moins, ça a toujours été des femmes. Et d'ailleurs, Christian me dit qu'il préférait toujours travailler avec les femmes parce qu'il trouvait qu'on était plus méticuleuses. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas.
C'est souvent un truc qu'on dit aux femmes.
Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, je comprends. Que ça suscite une question, parce que tout à l'heure vous avez évoqué les afro-femmes, des choses comme ça, donc il y a quand même ce patriarcat qui nous écrabouille et c'est pas conscient. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que je crois qu'on a beaucoup intériorisé nous-mêmes ce patriarcat et parfois on se rend pas compte qu'on reproduit en fait ou qu'on a ces réflexes-là nous-mêmes, sans qu'eux nous fassent la remarque ou sans qu'eux nous le disent. On va être c'est un effort, par exemple, quand on choisit les thèmes, de pas mettre que des hommes, mais on n'y pense pas. Mais
parce qu'il faut faire un effort conscient. Ouais. Tu veux dire.
Oui, on n'y pense pas, mais ça va aussi être que la plupart des
d'entrepreneurs les couvertures sont très masculines de nos filles. Enfin,
et c'est marrant, on m'a fait la remarque, aussi une autre fois, et Rokhaya Diallo aussi m'avait fait la remarque. J'avais trouvé ça intéressant parce que nous on voyait pas.
Et tu voyais d'abord des noirs, j'imagine, avant de voir des hommes.
C'est ça, en fait. Ouais. Donc on voyait pas, on réfléchissait pas en termes de parité, vraiment en termes de symboles, d'inspiration, etc. Et que c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, par exemple, tu vas chercher des gens qui ont fait des trucs, ça va plus être des hommes, quoi. C'est pas fait exprès. Donc, mais c'est marrant de prendre ce recul et de se dire que ouais, il faut peut-être faire attention. Après, je sais pas si dans notre contexte, en tant que noir, les questions de parité ou tous ces débats-là, c'est des choses auxquelles on pense naturellement.
Non, je pense que de toute façon, il faut faire un effort et il faut toujours rester.
Ouais, je crois qu'on est plus sur le fait que voilà, c'est un truc noir, il faut que ce soit noir, donc du coup.
Parce que c'est vrai que les femmes noires, du coup, sont doublement aussi.
Et il y en a pas beaucoup. Quoi, ouais. En fait, il y en a pas beaucoup. Oui. Si on prend même dans les médias, on va avoir des femmes dans les médias, des femmes noires dans les médias, mais on n'aura pas, par exemple, de parcours à la Oprah Winfrey. On n'aura pas quelqu'un qui a bâti. Qui est parti de zéro, qui a bâti son entreprise avec son nom et qui prospère sur ça. On aura au mieux des femmes qui ont des postes à responsabilité dans des institutions qui existent déjà, mais c'est pas, c'est aussi des inspirations, mais c'est plus limité en termes de portée, quoi.
Ok.
Kev, tu voulais dire quelque chose?
Ouais, non, j'avais pas de choses à ajouter sur par rapport à ton parcours. C'était plus sur un dernier point que je voudrais soulever, c'est la question de la légitimité. Un des premiers numéros, je crois le numéro 3 de mai 2017, c'était à qui profite la culture noire. Je te disais tout à l'heure que c'était certainement mon numéro préféré parce que dedans, on parle de Bolloré en Afrique, des mouvements sociaux en Guyane, il y a Kerry James, il y a tout ça. Et dans le dossier à qui profite la culture noire, il y a une intro écrite par Johnny Toz que j'ai trouvé incisif et très très juste. Il dit « Des produits créés par des Noirs sont juste ethniques ou urbains, mais que magnifiés par le génie des autres, ils deviennent des classiques intelligents élevés au rang de la culture pop. » Et à la fin, il cite Toni Morrison, « Le noir fait vendre, c'est la matière première la plus en vogue du monde civilisé. »
Absolument.
Tout le monde le sait, mais l'homme noir en a-t-il réellement conscience? Et puis en fait, après ça, il y a quelques exemples de produits ou de choses culturelles qui ont été qui ont été, je sais pas comment détournés, dire, détournés, ouais. spoliés, mm-hmm. Le Wax qui est hollandais,
oui, oui.
Chuck Berry et Johnny B. Goode, mm-hmm. le rock'n'roll, j'en avais parlé dans un vieil épisode du Chip. Comment on se réapproprie cette culture noire en France ? Je sais que dès qu'il y a des événements culturels qui sont faits dans des institutions un peu classiques, mm-hmm. du côté de la communauté, il y a toujours des grincements dedans en disant « ouais, mais c'est un truc qu'on nous utilise, ouais. on ne nous associe pas à ça ».
Oui, c'est vrai.
On n'est pas là, voilà. Enfin, qu'est-ce que t'en penses ?
Mais d'abord, je crois que ça montre que c'est d'autant plus important de continuer à promouvoir l'histoire noire en général, parce que d'abord, tout le monde ne sait pas que ces éléments devenus pop, souvent, sont des éléments de la culture noire, en fait, que ça vient de quelque part. Ils connaissent pas déjà l'origine, donc ça pose problème en soi. Et après, c'est vrai que c'est très difficile, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous incombe. C'est-à-dire qu'on ne peut plus seulement se plaindre quelqu'un qui fait l'événement sans vous et qui vous appelle à la dernière minute pour avoir le crédit, par exemple. Dans la démarche, on sait déjà que ce n'est pas un truc pour vous. C'est dans ce sens-là, en fait. Parce que sinon, depuis le départ, ils se seraient reposés. Voilà, ils auraient demandé, bon, qui s'y connaît sur ça ? Et ils se seraient reposés non pas sur leurs amis ou les gentils, les mascottes, tout ça, les fétiches. Ouais. pas forcément sur eux, mais ils se seraient dit, voilà, on va chercher des gens qui ont une expertise sur ça et qui peuvent nous dire comment le faire. À partir du moment où ils ne l'ont pas fait, ils savent très bien pourquoi ils ne l'ont pas fait, je pense que ça ne s'adresse pas à nous. Et nous, on devrait nous-mêmes, en fait, s'occuper de monter des événements. On sait que c'est plus dur, mais c'est plus un propos, ça. On sait que c'est plus dur, on sait tout ça. Mais aujourd'hui qu'on a des formations égales, aujourd'hui qu'on a des personnalités aussi privées dans la communauté, c'est faux déjà de dire que les gens ne se soutiennent pas. Hein. Ça dépend du projet, en fait. Mais dans les projets sérieux, nous, je sais qu'on a Jacques Fati, par exemple, le footballeur Jacques Fati, qui nous accompagne depuis le début, depuis nos filles. Donc, quand le projet...
Jacques Fati.
Oui.
Excuse-moi, rien à voir. Élément de ma bio personnelle. J'ai vécu pendant des années à Rennes.
Ouais.
Il vivait aussi. Je suis le sosie officiel de Jacques Fati.
Ah bon ?
Tous les blancs de Rennes dans le bus. Bah. Excusez-moi, non, je ne suis pas Jacques Fati. Et en fait, un jour, je cherchais plein de photos de lui et sur un angle, il y a une photo sur ouais. l'image où c'est moi. En fait.
Ah bah voilà.
C'est vraiment moi. C'est trop bien. Merde. Mais bon, bref. Excuse-moi. Donc Jacques
Fati. Ce que je veux dire, c'est que on peut s'organiser. On peut s'organiser et justement faire mentir à chaque fois cette idée qui veut qu'on soit pas solidaire, parce que il y a maintenant de plus en plus de personnes noires en France qui réussissent à prospérer, qui montent des initiatives, qui vont loin et qui rapportent de l'argent. Je pense au Quai 54, par exemple, avec Amadou Ndidibé. On a de plus en plus de parcours comme ça. Et ces gens-là aussi sont demandeurs de ce networking communautaire. Voilà, de se rencontrer, d'échanger, de pouvoir même, pourquoi pas, porter des projets ou en financer, en soutenir en tout cas. Mais ça dépend de comment le projet est présenté. Mais tout ça pris en compte, je crois qu'aujourd'hui, c'est à nous, justement, de rétablir ça en organisant aussi nos événements, en nous-mêmes expliquant pourquoi c'est de la culture noire, qu'est-ce que c'est la réappropriation culturelle, pourquoi c'est important de donner le tribute to, de dire que, voilà, voilà, de dire, oui, aujourd'hui on fait telle musique, mais ça vient de ça, et ça a commencé là-bas, c'est important de le faire. Et je crois que c'est à nous de nous emparer de cette question.
Ok. Quelque chose à ajouter ?
Non.
On va pouvoir enchaîner, je pense. On est à combien ?
Tu voulais pas
Non, mais j'ai fini, j'avais pas vraiment
1h10.
De. Ouais.
D'accord.
Ouais.
Ok, d'accord.
J'ai pas vraiment de conclusion sur.
Ok, d'accord, mais tu m'as fait une sorte d'appel de phare, j'ai l'impression que tu voulais dire
non,
un truc.
Non, rien de.
Ben écoute, merci en tout cas d'avoir été là pour répondre à nos questions. Sarah, est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs, du coup, la fréquence de parution de Négus et puis le prix en kiosque?
Oui, alors ça tombe bien qu'on parle de ça. Donc, du coup, on a relancé Négus dans cette nouvelle version de 52 pages en décembre 2018.
Ouais.
Donc,
le papier est bien.
Le papier a changé.
Le papier est cool.
Voilà, on est resté sur quelque chose de mensuel jusqu'à ce numéro-ci, le numéro du mois d'avril avec Harry Roselmack. Et donc, à partir de là, comme on l'avait annoncé et comme on le redira, Négus est un bimensuel, devient bimensuel, donc prochaine sortie au mois de juin. Sinon, le Négus avec Harry Roselmack est en ce moment dans les kiosques.
D'accord.
Et au Nofistore.
Et sur le site de Nubius.
Et sur le site, donc abonnez-vous parce que c'est plus pratique, vous le recevez chez vous. Et il y a plein de gens qui parfois nous disent qu'ils ne trouvent pas dans tel ou tel kiosque. Donc nous, c'est dans tous les relais, ça c'est sûr.
D'accord.
Dans certains autres kiosques, on essaye de mettre à jour la liste. Mais pour, ne vous cassez pas la tête, au Nofi Store, il y a les Nubius.
Allez-y, voilà. Allez chez votre...
Alors le Nubius, c'est à 4,90€.
Okay. Go get it.
Alors, je vais vous recommander un truc qu'on n'a jamais fait, un film Netflix.
Non.
Donc encore un film Netflix, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a que ça à faire de nos vies, regarder Netflix. Celui-là, c'est l'histoire de CJ et Sébastien, deux lycéens afro-américains qui sont passionnés de science et qui créent un prototype de machine à voyager dans le temps, sous forme de sac à dos. Donc jusque-là, tout va bien, on rigole. Mais un jour, le grand frère de CJ est abattu par la police parce qu'il tenait un téléphone portable à la main.
Calvin Walker, a 19-year-old black teen, was allegedly shot and killed by an NYPD officer. Walker was armed with nothing but a cell phone.
I am so sorry about all of this. If I could go back and fix it, I would.
If we just go back, get them out of there, then he's saved.
We only have so many times to get this right. Everything's gonna need to be perfect.
June 28th. Donc, le trailer annonce un peu la couleur. Effectivement, ils arrivent à remonter dans le temps. Moi, j'ai vu ce trailer, je me suis dit, mais enfin, on voit... Bon, effectivement, il y a le côté un ado qui meurt encore par la police. Mais on voit deux jeunes ados qui font de la science, qui partent un peu à l'aventure, qui essayent de résoudre une situation un peu science-fiction, quoi. Et d'avoir deux personnages noirs comme ça, dont une fille, qui sont dans ce genre d'aventure, je trouve ça vraiment cool. Et qui sont actifs et qui se battent face à l'adversité. Donc voilà, c'est encore une critique de bande-annonce. Peut-être que ça va être nul, mais je pense que ça va être bien.
C'est pas sorti encore.
Ça sort le 7 mai sur Netflix.
D'accord.
Donc voilà, à vos agendas. Et ma deuxième recommandation, je vais être assez rapide, c'est une émission de 30 minutes sur les cheveux. Ça s'appelle On Hair, c'est un podcast. Donc c'est un entretien entre la créatrice du podcast qui s'appelle Linda Shibani et son invité. Mais attention, ce n'est pas un podcast spécifiquement afro. Cependant, il y a deux épisodes avec des femmes noires. L'épisode 2 qui donne la parole à Cynthia, qui parle notamment de son arrêt du défrisage. Je trouve que c'est assez intéressant. Et l'épisode 7 qui invite Ornella, qui est une Instagrammeuse lifestyle, qui évoque en fait le port d'extension de cheveux.
Je reçois énormément de remarques positives. Il y a énormément de gens qui disent qu'ils adorent mes cheveux, etc., etc. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui vont être un peu négatifs et qui vont me dire « Oui, mais pourquoi tu portes pas tes cheveux naturels ? Porter l'afro en extension, ça revient à la même chose ?» Non, ça revient pas à la même chose parce que quand je porte des extensions, je cherche du volume, je cherche de la longueur, je cherche une certaine texture.
Ouais, donc en fait, je vous recommande vraiment ces deux épisodes-là parce que c'est deux profils différents. Et c'est deux femmes noires différentes. Je trouve ça cool qu'il n'y ait pas eu juste... Bon, là, on a l'épisode avec la noire. Non, là, c'est vraiment deux profils.
Je connais quelqu'un à qui ça va plaire.
Ouais, non, je pense que c'est un sujet de niche, mais c'est un sujet très ciblé qui est important pour de nombreuses femmes noires. Donc, je pense que c'est intéressant. Et voilà, le podcast On Air, big up.
Alors moi, au début, je voulais vous recommander un film que j'ai vu sur Netflix qui s'appelle The Trap avec T.I. et Mike Epps. Et puis, où en fait, T.I. et Mike Epps incarnent des deux frères à Atlanta qui en fait reprennent le restaurant de Wings familial, sauf qu'en fait, ils mettent de la weed dans les Wings. Et en gros, ça part en steak parce qu'en fait, T.I. sort avec une policière. Et puis, en fait, il y a un baron de la drogue qui leur fournit la weed, qui comprend l'embrouille. Et puis, ça part vraiment en steak. Sauf que, en fait,
c'est un remake de Cat Size, en fait.
C'est une daube. C'est
oui,
tout.
Il était très nul, ce film.
Ouais, il était très nul. Je voulais vraiment.
Merci la reco, quoi.
Bah, je voulais en faire ma reco, mais du coup, je vais pas vous le recommander, même si le petit passage avec 21 Savage qui passe à la caisse.
C'est
fait...
marrant. Mais
I like 21 Wings. 21. Non, mais c'est vrai que c'est de la merde. Du coup, c'est de la merde. Donc, du coup, je vais vous recommander un album de rap qui s'appelle Psychodrama par un rappeur de Streatham, le quartier de South London, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Dave. Il ne s'agit pas du chanteur néerlandais Dave, il s'agit d'un rappeur londonien d'origine nigériane, si je dis pas de bêtises, extrêmement talentueux, qui a été repéré, je crois, autour de 2017 avec Drake, le tube Wanna Know, qui a été donc remixé par ce cher Drake, qui n'est jamais à court de vagues sur lesquelles surfer, n'est-ce pas? Et donc voilà, il sort son premier album officiel solo qui s'appelle donc Psychodrama. Et donc c'est un album extrêmement, extrêmement dense et extrêmement riche en thèmes différents. Que dire d'autre? Il a un sens du storytelling qui est très 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 pointu. Il y a un morceau de 11 minutes qui s'appelle Leslie, qui parle d'une sorte de triangle amoureux avec une grossesse non voulue à travers les points de vue des différents personnages, qui est extrêmement bien écrit. Ça ressemble vraiment, enfin, au niveau du storytelling, on est sur du André 3000 ou sur du Kendrick Lamar. J'ai trouvé ça excellent. Il y a un morceau justement sur l'expérience noire qui s'appelle Black. Tout simplement, où en fait chaque rime commence par le fait d'être noir, par exemple, c'est devoir reconquérir ton histoire. Le fait d'être noir, c'est qu'on aime ta culture mais qu'on ne t'aime pas toi, etc., etc. Et bref, il y a à la fois un sens du storytelling et une manière de brasser des thèmes sociétaux, politiques, humains, mais en même temps en restant très accessible, qui est vraiment inné chez lui. Et donc c'est un excellent album. Les productions sont excellentes. Les Londoniens continuent de foutre des claques avec les Young Bane, les Kojo Funds, etc. Ils sont vraiment bons. Il y a un morceau avec mon gars sur Burna Boy pour être dans un truc un peu plus dansant et léger. C'est vraiment un album de très haute volée. Et, franchement, filez sur Spotify ou n'importe quelle plateforme de streaming et écoutez-le. Voilà, Psychodrama de Dave.
Moi, ma recommandation, c'est un nouveau podcast produit par l'équipe. Ça s'appelle Une Deux. C'est présenté par un certain Mehdi Maizi, accompagné de membres de l'équipe de No Fun. C'est une émission qui mélange, selon moi, les deux seules choses qui marchent bien en France, le foot et le rap.
En termes de blackness, oui.
de tout. Et en fait, le truc, ça part du constat qu'entre 1998, première Coupe du Monde, et 2018, deuxième Coupe du Monde, il y a une évolution dans ce qu'écoutent les joueurs de foot. C'est-à-dire que dans Les Yeux dans les Bleus en 98, en gros, ils écoutent Les Enfoirés, du Polnareff, des trucs comme ça. Et en 2018, ils écoutent Aya Nakamura, Booba, VG Dream, NASA. Donc dans le premier épisode, ils reçoivent Mamadou Sakho, donc ancien joueur du PSG, de Liverpool, qui est aujourd'hui à Crystal Palace, et ils reçoivent Youssoupha, le lyriciste bantou. Et donc ce qui est bien, c'est qu'ils viennent pas en promo d'un album, ils viennent pas vendre des maillots, ils parlent de leur parcours. C'est fascinant parce que les rappeurs se rêvent souvent en footballeurs et inversement. Il y a quelques épisodes, François et moi, on parlait de l'épisode sur High Flying Bird, on parlait de la fascination entre NBA et hip-hop.
Ouais, c'est la même chose chez nous.
De ce côté de l'Atlantique, chez nous, c'est au niveau français, c'est plutôt hip-hop, rap et football.
Vous l'avez eu dans l'Aiguille, Youssoupha?
On l'a pas eu dans l'Aiguille, mais on l'a eu dans Nofi.
D'accord.
Plusieurs fois.
Ouais, parce que lui aussi, c'est quelqu'un
qui est
engagé auprès d'une communauté.
Pour moi, Négus, c'est Youssoupha, mais sous forme de magazine.
Ah, Youssoupha, quoi. Négus, c'est Youssoupha.
C'est ça. Et Youssoupha, c'est Négus.
C'est un fan de hardcore de Liverpool et de Steven Gerrard. Ils reviennent notamment sur des anecdotes marquantes. Donc, pour les fans de foot, il y a cette fameuse glissade de 2014 où, en fait, Steven Gerrard, à l'époque, c'est le capitaine emblématique de Liverpool qui n'a pas gagné de titre depuis 1990. Ils sont devant au classement. Mamadou Sakho lui fait une passe anodine et ils glissent, ils se prennent en contre. Ils sont pas champions à la fin. Donc Youssoupha revient sur cette anecdote-là avec Mamadou Sakho, comment ça s'est passé à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment très très bien. On attend les prochains épisodes. Quelques petites indiscrétions. Dans les deux prochains numéros, il y aura d'abord Oxmo Puccino, donc Cactus de Sibérie, l'Hippopète Bar, avec Sidney Govou.
D'accord.
Ancien joueur de l'OL.
Ça va être cool, ça.
Et puis, un épisode suivant, Kalash.
Oh,
yao, yao, yao. Avec Wendy Renard, footballeuse martiniquaise de l'OL.
Ça va être tellement bien.
Ça va être chaud. Donc j'attends ça. Ça fait plaisir. C'est l'équipe. C'est Une, Deux. Je ne sais pas la fréquence. Je crois que c'est toutes les deux semaines. Ouais. Mais en tout cas, abonnez-vous et ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine.
Voilà, c'était le Chip. On revient dans 15 jours. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram,
Le Chip Podcast.
Voilà, c'est le même at sur les deux comptes.
Notre Instagram, il va.
L'Instagram.
On annonce des trucs.
Voilà, ouais, annonce pas trop vite quand même.
C'est pas encore fait.
Voilà, mais l'Instagram va subir un gros glow-up et on espère que.
Façade.
Voilà, merci.
En français.
Pas d'anglicisme entre nous. Lol. Merci à l'anglicisme. MDR. Mince, bref. Suivez-nous sur ces réseaux sociaux-là. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes vos applis de podcast habituelles. La règle, c'est que si jamais vous nous écoutez sur ces trucs-là et qu'il y a un système de notation, vous êtes obligé de nous mettre 5 étoiles, sinon votre téléphone...
Sinon Facebook va devenir payant.
Voilà, bah laissez-nous une review. Et puis, cette émission, d'abord, je remercie d'abord Sarah d'avoir été avec nous encore
merci
une fois.
Merci Sarah.
Merci à vous pour l'invitation. Merci. Personne cheap, c'est ce que je suis en train de me demander depuis tout à l'heure.
On va pas JB genre à la fin de l'émission. Ouais,
je sais
émission.
Pas, il y a personne qui a placé un cheap.
On le faisait. En fait, il y avait un chip qui était intégré dans le générique de l'ancienne saison.
Et
du
on
chip.
Nous l'a enlevé.
Ouais, c'est
quand
ça.
On l'a enlevé.
Au début de chaque truc. Non, c'est juste qu'on a changé de crèmerie. Du coup, le générique a changé et ils l'ont enlevé. Quoi.
Quelqu'un peut chipper pour me faire plaisir. Merci.
Cette émission a été réalisée par Quentin Bresson et coproduite par Binge Audio. Merci à eux. Bisous et à dans 15 jours.
À dans 15 jours. Bye bye.